Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Le chef de l'État instruit les membres du gouvernement de réévaluer urgemment des mesures prises pour stabiliser le taux d'échange et relever le social des Congolais. Ceci ressort du deuxième conseil des ministres du gouvernement soumis Noyer. Par ailleurs, les agents et fonctionnaires de l'État seront désormais payés le 28 de chaque mois, assure le ministre des Finances. Jour J-2 pour la session ordinaire de l'examen d'État édition 2024. Les préparatifs se déroulent bien et ces épreuves doivent bien se passer même dans les zones en proie à l'insécurité. C'est ce que affirme l'inspecteur général du ministère de l'Éducation nationale, Odia Musungai, et l'invité de ce journal. Et puis, la province du Nord Kivu compte à ce jour plus de 160 000 réfugiés. Près de 400 sont rapatriés volontairement depuis janvier 2024. Révélation du ACR hier à Goma en marge du 20 juin, la journée mondiale des réfugiés. Madame, Messieurs, bonjour. La nécessité de stabiliser la monnaie nationale, le franc congolais, pour préserver le pouvoir d'achat de la population, c'est le premier point de la communication du président de la République hier au cours du deuxième conseil des ministres du gouvernement souminois. Félix-Antoine Tshisekedi a notamment demandé urgemment la réévaluation des mesures prises pour stabiliser le taux d'échange et relever le social des Congolais. On écoute un extrait du compte-rendu de ce conseil des ministres lu par le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, dans cet extrait proposé par Alain Irungu-Shinj.
Le président de la République a rappelé aux membres du gouvernement que parmi les missions du gouvernement actuel, il y a la matérialisation des engagements qu'il a pris devant la nation lors de son investiture pour son second mandat. Au nombre de ces engagements figurent la protection et les renforcements du pouvoir d'achat de nos concitoyens, mise à mal actuellement par la situation qui prévaut sur le marché d'échange. En effet, notre économie est fortement dollarisée. Le comportement du franc congolais face au dollar américain a un impact immédiat sur le panier de la ménagère congolaise. Face à cette situation, le président de la République a demandé à la première ministre, aux membres du gouvernement en charge des questions économiques et financières, ainsi qu'à la gouverneure de la Banque centrale du Congo, en collaboration avec son cabinet, de procéder urgemment à la réévaluation des mesures prises le 17 juillet 2023 pour stabiliser les taux de change, en y ajoutant, si nécessaire, des mesures supplémentaires pour enrayer cette spirale négative afin que le social des Congolais soit relevé.
Par ailleurs, la paie des agents et des fonctionnaires de l'État en République démocratique du Congo sera désormais régulière. Le ministre des Finances, Doudou Fouamba, a pris des mesures pour garantir que tous les fonctionnaires reçoivent leur salaire avant le 28 de chaque mois. Cette décision est le fruit d'une directive émise vendredi à Kinshasa lors d'une réunion dirigée par le président intérimaire du comité de suivi de la paie, indique l'agence congolaise de presse ACP. Rendons-nous dans le territoire de Beni, au Nord Kivu. Ici, nous apprenons que la commune rurale de Boulongo, bientôt dotée d'un entrepôt agréé pour l'exportation des produits agricoles, notamment le cacao et le café. Nous sommes à 40 km au nord-est de Beniville. Cet entrepôt sera construit par le poste de la Fédération des entreprises du Congo FEC, une délégation composée de plusieurs partenaires, dont le conseil local du café cacao et autres produits agricoles pour le développement rural, a visité mardi le site qui va abriter cet entrepôt. Selon le bourgmestre de la commune de Boulongo, ce projet, une fois réalisé, va mettre fin à l'exportation frauduleuse des produits agricoles non tracés. Jean-Paul Kaindo, bourgmestre de la commune de Boulongo, dans ses propos recueillis par Marc Marofimbo.
C'est encore une fois une joie pour nous, commune de Boulongo. Lorsque nous sommes choisis parmi tant d'autres pour ériger un projet de développement comme celui-là, nous n'avons qu'à nous frotter les mains. C'est pourquoi la délégation est venue, était composée de plusieurs partenaires. Ils sont venus visiter les sites où sera construit l'entrepôt à Boulongo. Je sais que si une fois il y a l'entrepôt à Boulongo, on aurait limité l'évasion ou la fuite des produits agricoles qui vont au marché, sa traçabilité, et ça va permettre à ce que nous puissions contrôler chacun à ce qui les concerne par rapport à traçabilité, soit la vente et le stockage de ces produits agricoles. Donc, nous disons merci à tout le monde qui a eu l'esprit d'accompagner la commune de Boulongo dans le cadre de l'encadrement de ces produits agricoles, café, cacao, à la commune de Boulongo.
Notez que les travaux de construction de cet entrepôt qui sera érigé au cœur du secteur agricole de Rwenzori vont durer 6 mois. Il aura une capacité d'au moins 400 à 500 tonnes. Je vous le disais en titre, les préparatifs pour la tenue des épreuves de l'examen d'État 2024 à partir de lundi 24 juin se déroulent bien. Toutes les malles contenant les items sont déjà arrivées dans leurs provinces respectives. Affirmation de l'inspecteur général du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté vendredi à Radio Kapi. Monsieur Odia Musungai confirme aussi qu'à l'instar de l'examen national de fin d'études ENAFEP et du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASO, qui se sont bien passés dernièrement, les épreuves de l'examen d'État de cette session devraient aussi se passer sans problème, même dans les zones en proie à l'insécurité. Écoutez plutôt l'inspecteur général du ministère de l'Éducation nationale, Odia Musungai, joint par Babel Mpongo Masimango.
C'est le dernier réglage au niveau des provinces. Mais ici, au niveau de Kinshasa, l'administration centrale, au centre national d'organisation, tout a été déjà fait. Au moment où nous parlons, les malles contenant les cahiers d'items sont déjà dans le point de chute, c'est-à-dire dans les provinces éducationnelles. Et au moment où nous parlons, les inspecteurs principaux provinciaux me confirment que les malles sont en train d'être déployées dans les recoins. Mais tout est bien, nous restons confiants. Le lundi, sur toute l'étendue de la République, les épreuves vont commencer.
Inspecteur, qu'en est-il des préparatifs dans les zones insécurisées et celles en guerre?
Les malles d'examen d'État sont partis. J'espère qu'à ce niveau-là, les épreuves également vont se dérouler parce que nous avons l'expérience de l'ENAFEP et TENASOSP, les dissertations. Ça a eu lieu. Au début, il y avait des petits couacs, mais on a fini par se comprendre. Les épreuves ont eu lieu. Okay. Là où ça a pris un petit retard à cause, comme vous le dites, de l'insécurité, un jour après, les choses se sont passées convenablement. Nous l'espérons également la semaine prochaine. Nos compatriotes qui sont de ce côté-là vont veiller à ce que les choses se déroulent proprement, sans couac.
Autre nouvelle, la province du Nord Kivu compte à ce jour plus de 160 000 réfugiés, dont environ 2 000 vivent dans la ville de Goma. Près de 400 d'entre eux ont volontairement été rapatriés depuis le début de cette année. Ces données ont été rendues publiques hier au cours d'une conférence de presse tenue à Goma par le ACR. C'était pour marquer la conclusion de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés, célébrée le 20 juin de chaque année. Nathalie Boussien, chef de la sous-délégation intérimaire du ACR Goma, s'exprime à ce sujet, elle est au micro de Chris Moukand, ma tante.
Il y a actuellement des réfugiés au Nord Kivu. Ils sont plus de 163 000 actuellement à travers la province, dont 2203 dans la ville de Goma. On a donc des réfugiés qui, d'une part, pour certains, vivent en milieu urbain, au sein de la communauté haute, et d'autres qui sont plus dans des milieux ruraux. En l'occurrence, le Nord Kivu accueille principalement des réfugiés rwandais, mais également burundais. Au Nord Kivu, il n'y a pas de camp de réfugiés. Les réfugiés, de manière générale, sont vraiment inclus dans la communauté haute en ville de Goma. Ils sont tellement bien inclus que les personnes ne réalisent pas qu'il y a des réfugiés au sein de la communauté. Depuis le début de cette année, nous avons ainsi rapatrié volontairement 380 réfugiés rwandais se trouvant au Nord Kivu vers le Rwanda et de pouvoir ainsi retrouver leur pays d'origine et avoir un beau futur devant eux.
Par ailleurs, 30 000 déplacés de la crise de Kwamout installés dans les sites de Doumi, Mongata et Mbankana dans la commune rurale de Maluku à Kinshasa sont ciblés par un projet d'assistance humanitaire globale dénommé Lisanga. Le lancement de ce projet a eu lieu cette semaine au quartier Mbankana, situé à environ 145 km du centre-ville de Kinshasa. C'était en présence des bénéficiaires, des autorités politico-administratives et sécuritaires locales, dont le bourgmestre de Maluku, sans oublier des représentants des 8 organisations formant un consortium de mise en œuvre avec Caritas International Belgique et Caritas Congo Asbel. Objectif, améliorer les conditions de vie et promouvoir la coexistence pacifique des communautés affectées par la crise de Kwamout. Plus de détails avec Noëlla Luzitu Kabambi.
Évalué à 3 200 000 $, le projet Lisanga cible les personnes déplacées ou retournées des familles d'accueil de la zone de santé de Kwamout et de Maluku 2. Ce projet sera mis en œuvre par un consortium de 8 organisations. Il est cofinancé par la Direction générale de la Commission européenne en charge de l'aide humanitaire, DG ECO. Il a 6 volets et cible 30 000 personnes, dont 2 000 ménages agricoles. Les bénéficiaires de leur côté ont exprimé le vœu de voir ce projet améliorer réellement leurs conditions de vie. Georgine Ngame, déplacée et mère de 7 enfants.
Je suis très contente de ces projets, celle de voir les deux peuples Teke et Akako habiter à nouveau. Je remercie beaucoup l'Union européenne pour son aide, ainsi que Caritas Belgique et Caritas Congo, qu'ils nous donnent des semences, des aubergines, des haricots et autres pour nos champs, pour que nos enfants retrouvent une bonne santé et une bonne croissance. Merci aussi pour la scolarité qui va reprendre pour nos enfants qui sont restés à la maison pendant 2 ans.
Le bourgmestre de la commune de Maluku s'est dit très ému par cette aide globale qui tombe à point nommé dans son entité. Alexis Mampamundoni.
Je suis d'abord ravi. Moi, mon souhait est que les projets qui viennent pour nous appuyer continuent jusqu'à la fin de ce projet.
La représentante au pays de Caritas International Belgique en RDC, Liliane Bitong Ambassa, appelle les autres acteurs à s'engager en faveur des victimes de la crise de Kwamout.
Direction l'Ituri, des centaines d'habitants dans la ville de Bounia ont été sensibilisés à lutter contre les violences sexuelles faites à la jeune fille et basées sur le genre. Activité organisée à la tribune de Bounia par l'unité spécialisée de la police nationale congolaise en matière de protection de l'enfant avec l'appui de la police de la MONUSCO. Les participants ont pris l'engagement de relayer ce message pour la prévention de ce fléau qui prend de l'ampleur dans cette province à la suite des violences des groupes armés. Ézéchiel Mouzalia, reportage.
Cette pièce de théâtre a mis en exergue le rôle de la police en charge des protections et prévention de toutes formes de violences sexuelles faites aux enfants, aux adultes ou encore aux personnes de troisième âge. Démarche saluée par de nombreux habitants au regard du contexte actuel où beaucoup de jeunes filles sont abusées sexuellement en raison de leur vulnérabilité, confie cet habitant.
On énumère au moins 23 types de fractions sur les violences sexuelles ici. Ce n'était pas juste un simple sketch, mais des conseils que je dois amener à mes enfants à la maison.
La commissaire générale adjointe en charge des luttes contre les violences sexuelles recommande à la population de se comporter dignement dans la société. Séraphine Falao.
Il y a beaucoup de cas de violences sexuelles qui se passent, mais la population ne sait pas comment ou aller. Si on pouvait donner les dépliants, il y a la négligence, beaucoup de gens ne lisent pas. Mais avec une pièce théâtrale comme ça, les messages passent rapidement.
Cette activité qui bénéficie de l'appui de la police de la MONUSCO va s'étendre dans toutes les 3 communes de la ville où plusieurs cas d'abus sexuels sont répertoriés. Bounia, Ézéchiel Mouzalia, Radio Okapi.
Justice au Nord Kivu. Ouverture hier à Goma des audiences foraines à la prison centrale de Goma, appuyée par la MONUSCO à travers sa section d'appui à la justice. Ce projet vise à désengorger cette maison carcérale. Quelques juridictions du droit commun et militaire de la province devraient siéger pendant 20 jours dans l'enceinte de la prison. Gabriel Boamenia pour le reportage.
Le coup d'envoi de ces audiences a été lancé aux environs des 12h locales à la prison de Goma. C'est en ce moment que les membres de la cour ont fait leur entrée dans la salle. Au total, 5 juridictions, dont 2 militaires, à savoir les tribunaux militaires de garnison et la cour militaire, sont engagés dans cet exercice. Hormis la cour d'appel, les chambres d'autres juridictions des droits communs siègent à la prison depuis ce vendredi. Il s'agit du tribunal pour enfants, le tribunal de grande instance et le tribunal de paix de Goma. L'objectif, selon les organisateurs, est de désengorger la prison de Goma qui héberge aujourd'hui une population carcérale de 4415 détenus, parmi eux seulement 766 condamnés, dont 24 femmes, dans toutes les juridictions confondues, selon les statistiques fournies par les responsables de la prison. Notons que plusieurs affaires instruites sont en continuation au premier degré, alors que d'autres sont en appel au niveau de la cour militaire. Seules les juridictions militaires comptent 1969 personnes inculpées et 979 autres sont toujours en état de prévention. Rappelons que ces audiences se clôturent le 6 juillet prochain. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Merci de nous recevoir à Mbandaka. Ici, les agents de la division provinciale de la justice Équateur appelés à combattre la corruption. C'est l'objectif de la campagne de sensibilisation lancée depuis jeudi dans la ville par la direction provinciale de l'Observatoire de surveillance de la corruption et éthique professionnelle, OSEP. Mais pour réussir, l'équipe de l'OSEP vise une lutte à la base au sein de la famille puis à l'école. C'est en vue de faire la lutte contre la corruption, de la lutte contre la corruption, une culture dans la vie sociale et professionnelle. C'est ce que dit le directeur provincial de l'OSEP Équateur, Taylor Lompoko Mpela, au micro de Paul-Richard Malengela.
La lutte contre la corruption, c'est un processus qui demande l'acceptation de tous en vue d'un changement de comportement. Après analyse et réflexion avec cette grande division qui est la justice, autour de certaines questions posées, nous nous sommes mis d'accord que lutter contre la corruption, c'est l'affaire de tous et qui doit normalement commencer au niveau de la famille. L'éducation de base serait le fondement même de la lutte contre la corruption. Nous sommes venus dévoiler notre stratégie, la nouvelle théorie que nous avons mise en place, FAIS, famille, école et société. Les bénéficiaires de notre activité ont compris l'essence de vouloir combattre la corruption à partir de la famille. C'est-à-dire que nous, les parents, nous devons nous lever comme un seul homme pour cultiver les germes et la lutte contre la corruption au sein de nos familles. Nous demandons également aux autorités scolaires de pouvoir poursuivre cette lutte afin que demain, nous ayons des gens intègres et prêts à pourchasser la cause.
Actualité internationale.
Nous sommes en Zambie. Une touriste américaine tuée cette semaine par un éléphant dans la ville zambienne de Livingstone. Il s'agit d'une deuxième attaque du genre cette année dans le pays, annoncent les autorités locales. Juliana Gley-Tourneau, c'est le nom de la victime. Âgée de 64 ans, le drame est survenu lorsqu'un éléphant faisant partie d'un troupeau que les touristes observaient a attaqué leur véhicule. Jeté à l'extérieur, la victime a été piétinée par l'animal. Les autorités zambiennes appellent les touristes à faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'ils observent la faune dans le pays.
L'invité.
Examen d'État édition 2024. La session ordinaire commence le lundi 24 juin. C'est pour 4 jours. Les malles d'item déjà présentes dans les provinces continuent d'être acheminées vers les zones plus éloignées. Cette année, on compte plus de 962 000 candidats inscrits, dont 48% sont des filles. L'inspecteur général du ministère de l'Éducation nationale appelle les candidats à être confiants. L'examen est tiré des matières enseignées dans leur cycle d'études. Odia Musungai s'entretient à ce sujet avec Babel Mpongo. Massimango.
Inspecteur Odia Musungai, bonjour.
Bonjour madame.
Où en sont les préparatifs de l'examen d'État puisque les examens commencent déjà le lundi 24 juin?
En ce qui concerne les préparatifs, c'est les derniers réglages au niveau des provinces. Mais ici, au niveau de Kinshasa, l'administration centrale, au Centre national d'organisation, tout a été déjà fait. Au moment où nous parlons, les malles contenant les cahiers d'items sont déjà dans le point de chute, c'est-à-dire dans les provinces éducationnelles. Et au moment où nous parlons, les inspecteurs principaux provinciaux me confirment que les malles sont en train d'être déployées dans les recoins. Mais tout est bien, nous restons confiants. Le lundi, sur toute l'étendue de la République, les épreuves vont commencer.
Inspecteur, qu'en est-il des préparatifs dans les zones insécurisées et celles en guerre?
Les malles d'examen d'État sont partis. J'espère qu'à ce niveau-là, les épreuves également vont se dérouler parce que nous avons l'expérience de l'ENAFEP et TENASOSP, les dissertations. Mmh. Ça a eu lieu. Au début, il y avait des petits couacs, mais on a fini par se comprendre. Les épreuves ont eu lieu. Mmh. Là où ça a pris un petit retard à cause, comme vous le dites, de l'insécurité, un jour après, les choses se sont passées convenablement. Nous l'espérons également la semaine prochaine. Nos compatriotes qui sont de ce côté-là vont veiller à ce que les choses se déroulent proprement, sans couacs. Ça n'a rien à voir avec la jeunesse que nous préparons aujourd'hui. Donc, les mâles sont partis. S'il y a un problème, on vous le dira, mais nous sommes confiants, tout va se passer comme il se doit.
Oui, et qu'en est-il des effectifs des candidats et qu'est-ce qu'il en est des centres?
Les effectifs sont légèrement à la baisse par rapport à l'année passée. Nous sommes à plus ou moins à 962 000 candidats, alors que l'année passée, nous avions des inscrits de l'ordre de 1 100 000. Mais les participants également, c'était plus ou moins 1 million. Les filles, il y a augmentation. Nous sommes déjà à plus ou moins 47-48% des filles qui participent.
Oui, et inspecteur, comment vous expliquez cette baisse du nombre des candidats?
Beaucoup de raisons. L'une des raisons principales, c'est qu'il y a eu amélioration de taux de réussite. C'est que cette année, nous n'avons pas beaucoup de candidats qui reviennent, qui avaient échoué. Mais également, les candidats autodidactes ne viennent plus participer. Peut-être qu'ils sont déjà employés quelque part. Ils ne trouvent pas bon de venir se présenter à l'examen d'État.
Et qu'en est-il du nombre de centres? Est-ce qu'il y en a comme d'habitude hors pays également?
Oui, au pays, nous avons plus de 2000 centres. Nous en avons également hors frontières. Vous avez à Angola, c'est-à-dire Luanda et Cabinda, Bujumbura, Tanzanie. Alors ça existe également de ce côté-là. Et ça s'est passé également en hors session comme... l'ENAPFEP, TENACESP, ça s'est déroulé sans couac.
Il y a des dispositions particulières par rapport à cette année?
Particulières, peut-être il faut dire que les mesures d'encadrement, les mesures contre la fraude, contre la tricherie, nous avons renforcé. C'est ce qui peut être considéré comme particulier. Mais c'est la routine, hein, l'examen d'État, on sait c'est 4 jours, on n'aura pas 5 cette fois-ci. Disposition également dans le cadre sécuritaire, c'est que il faudrait que les opérateurs commis à cette tâche-là respectent les instructions. C'est pas n'importe qui doit se présenter au centre d'examen d'État.
Vous avez des conseils à prodiguer à ces finalistes, hein. C'est la première fois, en fait, en tout cas pour la majorité d'entre eux, hein, de passer ces épreuves.
Je demande aux élèves de passer leurs épreuves dans la sérénité la plus totale, dans la quiétude. Pas de panique, il n'y a rien de mystérieux dans les épreuves de l'examen d'État. Il n'y a pas de mystère, il n'y a rien du tout. Il y a les matières qui sont contenues dans les programmes nationaux d'enseignement. Donc les questions ont été tirées de ces programmes. Ça n'a pas été inventé, ça ne tombe pas ni du ciel ni de l'enfer, encore moins du purgatoire. Donc, il faut que les enfants s'appliquent comme toujours. Ne jetez pas un coup d'œil sur le cahier du thème du voisin, parce que vous risquez de tomber sur une grande surprise. Vous n'avez pas la même épreuve nécessairement. Je reviens encore aux enfants, c'est pas le moment de chercher à tout bouquiner. Il y a des gens qui viennent leur dire, voilà, vous avez oublié telle matière chez vous, est-ce que vous avez vu ceci? C'est pas le moment. Et même après l'épreuve, je demanderai également aux enfants de rentrer calmement, sereinement à la maison.
L'inspecteur général du ministère de l'Éducation nationale, Odia Musungai, répondait aux questions de Babel Mpongo Massimango. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.